Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, une émission spéciale en deux parties consacrée au DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA par Dunk Hebdo. Qui dit émission spéciale dit dispositif tout aussi spécial, puisque l'intégralité de la team Dunk Hebdo est présente aujourd'hui avec moi. Alors tout d'abord, on a notre expert digital avec Adrien. Comment ça va Adrien ?
Comme tu viens de prononcer le mot digital, ça va moins bien, on dit numérique, mais sinon ça va bien, on est prêt, on est content, là il y a beaucoup de choses à dire, ça va être très long, mais ça va être, je pense que ça va être bien intéressant.
On a aussi notre expert Balkan, on va pas préciser pourquoi, c'est Alan. Comment ça va Alan ?
Salut les gars, salut à tous. Ouais franchement, ça va super, les tractations ont été intéressantes cette semaine, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire, donc c'est top.
Notre spécialiste historique, notre Marc Bloch. Alors celle-ci, elle est technique. Hein. Marc Bloch.
Ah oui.
Ilias, comment ça va, Ilias ?
Bah écoutez, plutôt bien, les gars. Content de participer à cette émission. Je pense que ça risque d'être assez intéressant vu la complexité de l'exercice.
C'est vrai, exercice très complexe, on va y revenir. Mais ça ne l'a pas empêché de découper. C'est notre expert découpage, Madiane. Comment ça va, Madiane ?
Ça va, tout en finesse le découpage. Faut avoir des arguments derrière.
C'est ça. Et on a hâte de les entendre. Parce qu'il y en a, je vous avoue que Madiane, c'est un peu ma star de cet épisode, hein. Je vous avoue que c'est lui qui m'intéresse. Et puis, notre Patrick Balkany à nous, notre expert de l'évasion fiscale, c'est Tom. Comment ça va, Tom? Souviens-toi de Victor Oladipo, Tom. Souviens-toi.
Et du contrat de John Wall où il y a une partie qui doit compter dans le cap et l'autre non.
C'est ça, c'est ça. Il faut ce genre d'arrangement quand on a le contrat de John Wall qui sera, petit spoiler, qui ne sera pas présent dans ce DH20. Donc, contrairement aux autres éditions du DH20, ce qu'on a fait cette année, c'est pour cette édition, c'est qu'on a réuni tous les classements des 6 personnes ici présentes et on va revenir là-dessus parce que ça amène forcément des débats. Petite note au passage, l'épisode est en deux parties et les deux parties ont été construites pour se répondre l'une à l'autre. Donc forcément, il y a certaines choses qui ne seront pas abordées dans cette première partie. Si vous nous découvrez à l'occasion de cet épisode, on vous invite à nous suivre sur Twitter, mais aussi sur les plateformes de podcast où vous écoutez l'émission. On remercie d'ailleurs de nos auditeurs Abdou721 et Bulle Bizarre pour leurs commentaires sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça aide toujours pour l'émission, pour qu'elle se développe. Nous, on marque la petite pause habituelle, puis on se retrouve pour la guerre, le début du DH20. Alors messieurs, avant de discuter du classement, on va peut-être rapidement expliquer aux auditeurs en quelques mots comment on l'a construit chacun. Parce que la règle, c'était de construire un top 20 des 20 meilleurs joueurs NBA, mais derrière, les critères étaient libres à chacun. Donc par ordre alphabétique, je le répète avant pour ceux au fond de la classe, donc Adrien, Alan, moi-même, Ilias, Madiane et Tom, on va revenir en quelques mots sur comment on a construit notre classement. Je te laisse commencer Adrien.
C'est toujours compliqué, je trouve, de faire un classement individuel des joueurs dans un sport collectif comme le basket. Alors moi, je me suis un peu posé la question, si je devais les classer dans l'ordre un par un, la meilleure façon dans ma tête pour moi de l'imaginer, c'était d'envisager par exemple une espèce de fantasy draft, si je devais faire une fantasy draft pour la saison, de pick les joueurs un par un, et puis ensuite imaginer qu'ils disparaissent, évidemment, puisqu'ils ont été pick, et qu'on revient, on revient plus tard. Et donc c'est comme ça pour moi que j'ai réussi à établir peut-être une hiérarchie de priorité avec donc en prenant en compte l'importance de certains profils, la rareté du profil, ce qui s'adapte aussi au jeu en 2020. Je pense que voilà, il y a tout un tas de critères comme ça qui rentrent en compte pour essayer que ce soit à la fois mon classement et garder une certaine forme d'objectivité. Voilà, je l'illustrerai comme ça avec une espèce de forme de draft. Et pour la question de la bulle, puisque c'est aussi ça le sujet du jour, c'est revenir sur la bulle. À quel point est-ce qu'elle impacte, elle doit impacter ce classement-là? C'est vraiment une question qui a été tout du long dans la réflexion. on verra, j'y reviendrai probablement sur quand on expliquera plusieurs picks.
Franchement, c'est bien plus compliqué qu'on le pense. Je pense de classer les 20 meilleurs joueurs NBA. Moi, la chose sur laquelle qui m'a fait le plus réfléchir, c'est en gros, je commence une série de playoffs. Quel joueur je veux comme à la base de mon équipe. Voilà, c'était vraiment le. Et je pense qu'on pourra en discuter avec certains peut-être qui pensent que en termes de valeur, joueur de post-season contre joueur de saison régulière, des choses comme ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en avant. Moi, ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est voilà, je commence une série de playoffs. Quel joueur je veux en tant que premier joueur de mon équipe, et j'ai classé les joueurs comme ça. Donc ça a fait surtout des hiérarchies donc de plus en plus grandes, c'est-à-dire en haut j'ai un joueur, on en reparlera, et donc comme ça c'est comme ça que ça s'est fait. Et ça a surtout, l'impact de la bulle, on en reparlera, a joué beaucoup sur ceux qui ont des références de playoffs contre ceux qui n'ont pas de références de playoffs, ceux qui n'avaient pas de références de playoffs et qui en ont eu juste sur la bulle. Maintenant, toutes ces choses là ont joué et ont engendrer des changements dans mon classement.
Alors de mon côté, oui, Alan a sous-entendu, mais je rappelle qu'il y a à l'intérieur de nos classements, il y a aussi on appelle ça des tiers dans un mauvais anglicisme, plutôt des groupes de même niveau. On pourra y revenir. Alors de mon côté, j'étais parti sur des critères assez classiques, puis j'ai été matrixé par Ben Taylor. Il est assez connu pour sa chaîne YouTube Thinking Basketball, et en fait où il a expliqué que dans un podcast qu'il fallait un peu en terminer avec l'idée de première option. Parce que ça donnait trop d'avantages aux joueurs offensifs, et qu'en gros, fallait donner un chiffre aux joueurs en attaque et en défense. Par exemple, joueur X peut être le deuxième meilleur joueur offensif d'une équipe titrée, et son troisième meilleur joueur défensif. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai construit mes tiers et mes classements. Donc l'idée, c'est vraiment la place d'un joueur dans une équipe potentiellement titrable, parce qu'en fait je donne pas de valeur à être un joueur très fort en saison régulière, enfin dans mon classement à moi. Donc on va y revenir, c'est pour ça que je donne énormément de valeur aux playoffs. C'est tout, je reviendrai peut-être sur quelques points plus tard. À toi Ilias, comment t'as un peu élaboré ton classement?
Bah déjà j'allais pas mal sous-estimer l'exercice. Je pensais voilà que j'allais être face à quelque chose que je pourrais facilement assumer, c'est-à-dire voilà classer 20 joueurs avec différents critères, mais justement la complexité, elle est justement dans la manière dont on va établir ces critères. Et bon, moi de tout temps, en tout cas depuis que je suis ce sport, il y a toujours en fait un facteur qui est beaucoup plus déterminant qu'un autre, selon moi, pour pouvoir justement juger un joueur en NBA, c'est justement le facteur des playoffs, comme Alan a pu le souligner. Moi, je n'ai pas forcément la bulle comme étant un critère supplémentaire, ou en tout cas parallèle à tout ça. Pour moi, ça englobe en fait la continuité des saisons précédentes, c'est-à-dire que je me suis fait différentes cases à cocher pour chacun de ces joueurs en fonction de son classement et en fonction de ce qu'il est capable ou non d'assumer, c'est-à-dire son rôle dans l'équipe, s'il est une première ou une deuxième option, s'il a su assumer le rôle qui était le sien. J'ai essayé d'avancer un petit peu dans ce sens-là, et ce qui est sûr, c'est que la continuité était quelque chose de très important pour moi, et également, on va dire que je me suis accordé un échantillon de 3 à 5 saisons pour pouvoir justement établir ce classement, avec une seule exception qu'on abordera forcément dans la deuxième partie de notre classement, qui a fait un petit peu effet d'échantillon à part.
Ok, alors là, mon héros de cet épisode, Madiane, comment as-tu fait ce classement, Madiane?
Je cherchais le chaos avant tout. Non, plus sérieusement, moi j'ai fait du regroupement par tiers. C'était vraiment important. C'est d'abord, je me suis dit voilà, quel groupe, quel joueur je range dans quelle catégorie. Je les ai classés en fait par groupe de niveau, et ensuite à l'intérieur de ces groupes de niveau, j'ai commencé à faire monter descendre les joueurs. Moi, ce que j'ai cherché, c'est effectivement plutôt la valeur dans l'effectif du joueur. J'ai pas voulu m'intéresser aux chiffres bruts de 25 points par match, etc. Moi, je me suis dit, quel joueur le plus valuable que je peux avoir dans mon effectif, celui qui m'accordera à la fois le plancher le plus haut possible sans pour autant limiter mon plafond. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu dans les tiers les regrouper, et je pense que du coup ça explique certaines choses dont on débattra par la suite. Et c'est vraiment cette affaire de chercher le plancher le plus haut tout en ayant le plafond le plus haut et le joueur qui peut impacter le plus l'équipe. Et surtout, que des références play-off. Les références saison régulière, je les dévalorise énormément par rapport aux play-off.
On voit déjà une petite une tendance vis-à-vis des play-offs. Tom, on va finir avec toi qui arbore, oui, un magnifique, ou ça dépend des points de vue, Alan l'a un peu critiqué, un maillot des Brooklyn Nets floqué de Kevin Durant. Comment tu as un peu construit ton top 20?
Alors, un peu comme vous, hein, je me suis inspiré un peu des tiers. Comme toi, Ben, j'ai pu voir le contenu de Ben Taylor, mais en fait, ce qu'il a mis en fait dans ma tête me demandait, après trop de travail de réflexion, pour pouvoir refaire le classement en temps. Donc du coup, j'ai pas considéré totalement ce qu'il a dit. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que dans mes tiers, j'ai privilégié et j'ai évalué les joueurs en fonction de ce qui te permet d'avoir en tant qu'équipe. Est-ce que le joueur X te permet d'être quoi, par exemple top 10 attaque ou top 10 défense juste par sa présence. Donc ça, c'est une façon en fait que j'ai pu commencer à déterminer mes tiers. Et après, j'ai fait beaucoup de on va dire, j'ai pondéré avec des facteurs de variance puisqu'il y a, on a décidé de prendre dans ce classement-là l'indice de santé à 100%. Donc du coup, ça a créé de la variance. C'est comme ça que j'ai pu après niveler mes tiers et les joueurs en les positionnant.
Totalement, Tom, tu soulignes un bon point. On est parti du principe. Alors, aucun classement n'est parfait. On est parti du principe que tous les joueurs sont à 100%. On en reviendra peut-être en fin de deuxième partie. On dira à quel point ça fait changer le classement, mais. En fait, c'est un peu moi qui ai imposé ce critère-là. J'avais pas envie qu'on disserte pendant deux émissions sur « Ah oui, mais si ce joueur-là revient à 75%, c'est trop, c'est une perte de temps. » On va commencer, messieurs, parce qu'il y a déjà eu plusieurs fois le mot « bulle » qui a été abordé. On va commencer avec mixer l'impact de la bulle avec peut-être son plus grand gagnant, c'est Jimmy Butler. Parce que Jimmy Butler, dans notre édition d'avril dernier, se classait 13e. Alors, une chose est sûre, c'est qu'il a bien monté parce qu'il se classe maintenant 9e et il est au-dessus maintenant des Damien Lillard, des Nikola Jokic, des Embiid, on reviendra là-dessus. Je vais commencer par toi, Madiane, et on va commencer une petite rubrique que j'ai appelée 2 minutes pour convaincre. Alors, c'est quand un joueur beaucoup plus haut que le reste. En gros, on va lui laisser, parce que là, c'est une émission, on doit être un peu plus rapide, on va lui laisser un peu plus de temps pour nous défendre, bah voilà, son choix. Et toi, en l'occurrence, Madiane, tu as classé Jimmy Butler 6e, ce qui le place devant Stephen Curry, James Harden, Luka Doncic, etc. Pourquoi ? Pourquoi, selon toi, ça se justifie de mettre Jimmy Butler 6e meilleur joueur NBA ?
Alors, parce que pour moi, ce n'est pas un épiphénomène de la bulle. Et j'ai cherché en fait un peu plus dans l'historique de Jimmy Butler. Adrien le connaît bien, il l'a connu aux Bulls. Et malgré un coach nul, une équipe pauvre, bah ça allait en playoff. Ça mettait 2-0 à Boston et je pense qu'Alan, il a transpiré à ce moment-là. T'avais un peu transpiré lors du 2-0, t'étais pas serein. Mine de rien, avec une équipe qui était archi nulle, bah ça partait quand même en playoff. Donc déjà, niveau plancher, je pense pas que c'était l'effet de Wade ou de Rondo, ça. C'était l'effet de Jimmy Butler. Avoir Jimmy Butler t'assure un certain standard de niveau. Quand tu regardes ensuite Minnesota, depuis que Jimmy Butler n'est pas là, ils sont nulle part. Ils sont nulle part dans la NBA, ils tankent et ils chopent le premier choix de la draft.
C'est pas que de la faute du départ de Jimmy Butler.
Pas que de la faute du départ de Jimmy Butler, mais tu passes à une équipe qui, avec Jimmy Butler en saison régulière, était quatrième derrière Houston, San Antonio et les Warriors. Et autant dire que cela, tu pouvais pas passer devant à cette époque-là. Jimmy Butler se blesse. L'équipe est à deux doigts de ne pas faire les playoffs. Il revient en catastrophe en fin de saison pour les qualifier dans un match ultime face à Denver. L'équipe sans Jimmy Butler n'allait jamais en playoffs et ils étaient avec l'avantage du terrain avant sa blessure. C'est dire le niveau de valeur qu'a Jimmy Butler dans cette équipe-là. Depuis qu'il est parti, ils sont nulle part. Philadelphie, pareil, il arrive, il a qu'une demi-saison finalement pour s'y faire dans ce trade, dans une équipe où c'est pas simple, où il y a des individualités. Eh ben cette équipe, moi je persiste à dire que il y a le shoot de Kawhi, mais au moment où ils mènent et ils ont l'avantage du terrain et ils rejouent à Philly, il doit y avoir 3-1 et pas 2-2 et ils sont censés gagner cette série. Ça doit pas jouer au shoot de Kawhi, la série doit être terminée avant. Ils ont perdu, mais j'ai pas l'impression qu'ils étaient forcément une moins bonne équipe que Toronto et Toronto est allé chercher le titre. Donc pareil, encore une fois Philly, ils partent. Eh ben finalement Philly actuellement, où est-ce qu'ils sont? C'est pas que de sa faute, etc. Mais ça fait quand même encore une fois pas mal de hasard. Et là il arrive au hit, ça clique. Alors on peut me dire qu'il n'y a pas que lui, il y a Duncan Robinson, il y a Ken Rinkman, quoique Ken Rinkman sur ses playoffs, est-ce qu'il a vraiment été impactant? Moi j'ai des, je n'ai pas trouvé très très flamboyant. Enfin voilà, certes il y a d'autres impacts, il y a Bam Adebayo, mais le Heat est allé en finale NBA, le Heat a tabassé Milwaukee. Milwaukee, 68 victoires. C'est pas n'importe qui, c'était à Banda Giannis et c'était censé être ceux qui allaient en finale haut la main. Bah désolé, mais en fait, ça fait beaucoup trop pour Jimmy Butler. Donc moi, je lui donne le respect qu'il mérite et c'est pour ça que je le place aussi haut.
Alors, je comptais lancer Ilias, mais ce qui est bien, c'est qu'on est en visio aujourd'hui. J'ai vu des réactions du côté de Paris, d'Alain Guillou. Pas mal de réactions pendant la prise de parole de Madiane. Qu'est-ce qui te fait réagir?
Non, pour moi, c'est vrai, tout ce qu'il dit est vrai, mais c'est pas que à chaque fois à cause du départ de Jimmy Butler que les équipes qu'il quitte deviennent sont dans une pire situation. C'est des décisions aussi de GM, des décisions de proprio et tout ça.
Ça fait 4 fois.
Ouais, mais
soit il est très chanceux.
Mais t'as vu dans
il quitte les équipes au bon moment.
T'as vu comment on appelle ça, les franchises dans lesquelles il était. Il y a eu mieux géré, j'ai l'impression, depuis quand même 5-6 ans. Donc oui, si tu regardes de façade, et je suis d'accord avec toi, et en fait, faut lui donner du crédit parce qu'à chaque fois, il arrive dans une meilleure situation, il la surélève, et quand il part, la situation dans laquelle il était est moins bonne que celle dans laquelle il se trouve. Donc ça, faut donner du crédit, je suis vraiment d'accord là-dessus. Et il était le meilleur joueur d'une équipe qui a été en finale NBA. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, de là, pour moi, à le mettre devant Damian Lillard et James Harden, je sais pas. Voilà, c'est juste ces deux joueurs là où je me dis bon.
Je pense pas qu'en fait là c'est une affaire du coup dans le tri du plafond. Alors un peu moins pour James Harden, surtout pour Damian Lillard, j'ai pas l'impression que le plafond que peut atteindre Damian Lillard soit aussi élevé en fait. Malgré tout ça, j'ai pas cette impression là, ça se discute, mais au moins, pour moi, il passe Lillard sur cette affaire-là où je me dis, est-ce que j'envisage vraiment Damian Lillard, première option? Je le fous à l'Est et je réfléchis à ça et j'ai vraiment eu du mal à l'envisager. Et pas en fait sur ses qualités offensives, elles y sont, elles sont là. Mais en fait, en playoff, c'est aussi une affaire de ne pas avoir de faiblesse et de l'autre côté du terrain, Jimmy Butler en laisse beaucoup moins qu'un Damian Lillard. Ce qui fait que j'ai pas l'impression qu'une équipe avec Damian Lillard en première option soit forcément capable d'aller en finale NBA. Je pense qu'à un moment, il se serait fait exposer dans certains matchs.
Alors, il y a eu un espèce de mouvement de foule quand Madiane a évoqué la possibilité. Est-ce qu'une équipe menée offensivement, notamment par Jimmy Butler, peut aller aussi loin? Je vais me tourner vers celui qui a beaucoup côtoyé Jimmy Butler. C'est toi, Adrien. Tu l'as 9e de ton classement et à peu près au même endroit que tout le monde et surtout dans le groupe de niveau, le tiers de Damian Lillard, justement, et Nikola Jokic. Pourquoi tu l'as peut-être pas fait monter plus haut, du coup, avec sa performance dans la bulle?
Bah justement, par rapport à ce que disait Madiane, je pense que Butler est plus intéressant sur le niveau plancher qu'il apporte à ton équipe que sur son niveau plafond, pour le moment en tout cas. Même si sur les finales, il a peut-être fait des game statement, comme on dit, et montré qu'il est peut-être capable justement d'amener plus haut encore son équipe. Mais on parlait de la bulle et de son impact. Moi, j'ai pas envie de surréagir sur cette bulle, c'est vraiment un contexte qui a été très particulier. Pour avoir justement beaucoup vu Jimmy Butler c'est un guerrier et lui il s'est pas laissé impressionner par tout ça. Ce Heat est allé à la guerre, avec lui, derrière lui, il a su emmener les joueurs et ça il sait très bien le faire. Et pour moi c'est vrai que c'est quelque chose à mettre en avant. Mais pour le coup je suis pas sûr que cette performance il puisse la réitérer à ce point là dans les années qui arrivent. Je le souhaite d'une certaine façon, mais dans mon classement j'ai pas voulu trop le mettre en avant. Et donc pour revenir sur ce côté plancher plafond par rapport à Damian Lillard par exemple, je pense honnêtement que ce qu'apporte Damian Lillard en attaque est beaucoup plus haut que ce que fait Jimmy Butler. Jimmy Butler, ça a marché face aux Lakers dans un contexte de match un peu particulier, mais par exemple, on en a beaucoup parlé, il prend très peu de 3 points, voire pas du tout sur son fameux match historique. Là où Damian Lillard t'apporte des réponses qui sont peut-être plus adaptées, on va dire, au jeu moderne, etc. Donc Jimmy Butler est très très fort. Mais j'ai encore un peu de mal, j'ai envie d'avoir un peu plus de références, justement un peu plus sur le long terme, avant de le placer dans le tiers au-dessus, même si il mérite globalement le top 10, il est top 9 là, je vois en agrégé pour nous, et je pense que c'est loin d'être démérité.
On va revenir avec toi, Elias, c'était celui qui l'a classé le moins bas. Donc en gros, en quelques mots, est-ce que tu rejoins un peu ce qu'on peut dire Alan, et Adrien sur le fait que, en fait, en gros, ce que j'ai l'impression, bah, c'est assez difficile de le placer plus haut. C'est, on remarque ce qu'il a fait dans la bulle, mais au-dessus, c'est juste trop fort, quoi.
C'est trop fort, et aussi, ça s'explique par le fait que si on décortique un petit peu les différentes séries par lesquelles sont passés Butler, on a vu qu'il choisissait aussi un petit peu ses moments parce que le coaching dont il bénéficiait et l'équipe qui l'entourait lui permettait justement de pouvoir faire d'autres choses que celle d'être le surhomme qu'on a pu voir à certains moments de la finale. Donc en gros, je suis pas forcément persuadé qu'il soit au-dessus des joueurs que j'ai devant lui. C'est juste que on va dire qu'il a grimpé également aussi dans, on va dire, dans certains classements parce qu'il a été amené à surperformer et nous étonner à des moments, qu'on n'était pas habitué à le voir évoluer. Donc je pense que sa finale joue beaucoup, mais je pense que ce qu'il fait avant la finale restait dans le cadre de ce que Jimmy Butler avait toujours fait. C'est juste que là, il a, on va dire, sur le plan collectif, bénéficié du contexte de la bulle et que, on va dire, les 2-3 gros matchs qu'il a pu faire en finale ont véritablement, on va dire, imprimé sa place dans notre classement.
Ok, et je vais finir avec toi, Tom. J'ai juste donné mon ressenti après avoir fait le passe-plat. Moi, je trouve juste que Butler, c'est une des évaluations les plus difficiles parce que, en fait, chacun des joueurs placés au-dessus, on peut dire qu'il est élite, voire top 5 dans un domaine. Pratiquement dans un. Butler, ça rejoint un peu ce que a dit Madiane, il y a cette espèce de karma, mais concrètement, il est top 5 dans quoi, en fait? Il est genre élite dans quoi, Jimmy Butler?
Et c'est le ça SL.
Ouais, mais ça, tu vois, c'est pas une capacité qui te permet de... Je sais pas, pour moi, c'est déjà difficile à quantifier, et ouais. Ensuite, tu peux pas le mettre ça au-dessus de la création de shoot, du spacing d'un Curry, de beaucoup de choses, de la défense d'un Davis, enfin, c'est compliqué. Tom, je te laisse la parole, et ensuite, on va parler du grand perdant de cette bulle, c'est Russell Westbrook.
Ben, du coup, pour revenir un petit peu sur Jimmy Butler, en fait, moi, la raison pour laquelle je l'ai mis dans le même tiers, mais un peu en dessous des autres, c'est que, un peu pour ma logique des top 10, en fait, quand t'as une équipe qui est basée sur Jimmy Butler, tu n'es pas assuré d'être top 10, ni en attaque, ni en défense. Là où tous les autres joueurs qui sont soit au-dessus, soit peut-être un petit peu en dessous, comme par exemple Nikola Jokic, voire même que Joel Embiid, ces joueurs-là, en fait, t'assurent d'être au moins top 10 en étant simplement eux sur le terrain. Après, tu peux mettre n'importe qui autour, quasiment, tu sais que si ces gars-là sont dans leur rôle maximum, tu sais que ton équipe sera top 10 soit en attaque soit en défense. Là où pour Jimmy Butler, tu as parlé, Ben, du coup, du côté il est top 5 dans quoi? Jimmy Butler, il est plutôt top 5 dans le côté mauvais nulle part, tu vois, top 5 ou dans le côté de mauvais nulle part, et je pense que c'est un joueur aussi qui bénéficie aussi beaucoup de la disparition des forces ailiers à l'Est.
C'est vrai, parce que tout le monde est un peu parti. Et il y a toujours Kevin Durant qui n'est pas encore arrivé. On va revenir sur le grand perdant, enfin, d'un point de vue classement de ce DH20, c'est Russell Westbrook. Dans le classement agrégé de nos auditeurs, il était 10e. Cette fois-ci, parmi nos 6 classements, il y a juste Tom qui l'a placé dedans. Avant de donner la parole à Tom pour qu'il ait ses 2 minutes pour nous convaincre, déjà, qui a pensé à Russell Westbrook à un moment? Qui a vraiment pensé à Russell Westbrook? Beaucoup de mains se lèvent, donc je vais commencer, vu que tout le monde veut zig, je zague, je vais vers Alan, parce que t'es le seul qui n'a pas levé la main, tu n'as pas pensé à Westbrook, je te rejoins. J'ai même pas envisagé Westbrook.
Non, j'ai pas envisagé Westbrook pour une raison assez simple, c'est qu'il était dans le meilleur environnement possible pour que tout fonctionne bien. Donc en termes stats, il a staté Russell Westbrook sur sa saison 2019-2020. Et en termes collectifs, c'est-à-dire on joue sans pivot, du spacing, et c'est Russell Westbrook qui se retrouve avec plein de match-up favorables contre les joueurs censés être plus grands, moins mobiles que lui pour attaquer le cercle, ce qui fait très bien vu que Russell Westbrook depuis quelques années ne peut plus tirer à haut niveau. Et Pepou n'a pas mis distance encore, mais il n'est plus une menace offensive derrière la ligne à 3 points. Donc rien que ça, je me suis dit ok, ils ont tout fait pour que ça fonctionne. Ils ont construit l'équipe pour que ses aptitudes offensives soient maximisées. Et on a quand même vu des limitations en playoff, donc contre les Lakers. Ce n'était pas aussi une partie de plaisir contre OKC. Et tout simplement, on est dans une NBA où la hiérarchie des guards, il y a beaucoup beaucoup de monde, donc en gros c'était quand certains auditeurs vont voir qui j'ai pas mis dans mon top 20, je pouvais pas me mettre Russell Westbrook vu que j'ai pas mis des joueurs qui pour moi voilà sont plus forts que Russell Westbrook aujourd'hui, tout simplement.
Alors Tom, je t'ai vu dodeliner beaucoup et faire des non, non, non à plusieurs reprises. Pourquoi? Pourquoi? Notamment, je t'ai vu réagir sur le Russell Westbrook dans la meilleure situation.
Tout mis en œuvre. Ouais, alors moi je dirais pas que c'est dans la meilleure situation. C'est la meilleure situation théorique parce qu'il y a pas de spacing, mais pour un genre comme Russell Westbrook un peu à l'ancienne, le fait d'avoir un pivot, un grand et des shooters autour, enfin, il y a personne qui pouvait aller chercher un lob à part Jeff Green chez les Rockets quoi. Donc je trouve que c'est un joueur qui a quand même était habitué à jouer beaucoup avec des grands et notamment avec Cantor, il a joué beaucoup avec Steven Adams et on a vu le pick and roll Steven Adams et Russell Westbrook,
ça fonctionnait
très bien, il y avait des shooters aussi. Oui, mais qu'on a vu des shooters autour, on a vu que ça fonctionnait très bien. Donc du coup,
il y a jamais eu de shooter autour au KC, Tom. Il y a jamais eu de shooter autour au KC.
Oui, mais attends, il y a eu des gens qui shootaient quand ils sont allés en 2016, ils menaient 3-1 face aux Warriors, il y a eu des gens qui shootaient à côté.
Non, il y avait KD.
Enfin, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, le seul point sur lequel je suis pas d'accord avec toi, c'est ils ont tout mis en œuvre. Théoriquement, oui, mais dans les faits, je pense que c'était trop brutal de passer de quelqu'un qui a aucune verticalité la raquette, tu vois. Parce que limite, Russell Westbrook, ben, il a été obligé de jouer sans écran. Sauf que il a pas forcément les capacités pour faire ça. Bon, après, pour le reste de l'argumentation, je reviendrai plus tard, mais c'était simplement pour ça que ce côté-là où j'étais pas d'accord avec toi, Alan.
Je rejoins quand même Alan. Quand on voit qui a été zappé dans nos classements, ça devient dur de mettre Russell Westbrook. Là encore, où tu te dis, qu'est-ce qu'apporte Russell Westbrook en 2020, en fait? J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un blocage sur le... On y reviendra, je pense qu'on a tous ce biais-là où certaines personnes, c'est difficile de les sortir sur le nom. Ça s'est beaucoup manifesté quand j'ai dit Westbrook. Allez, je vais partir vers toi, Elias. T'y as pensé, mais tu l'as pas mis. Pourquoi tu l'as pas mis?
Bah, tout simplement, en fait, parce que c'est dû à la complexité de la manière de classer nos joueurs. Et en fait, j'avais un espèce, voilà, de dernier tiers, voilà, qui composait peut-être 5 à 6 joueurs, peut-être pas forcément du niveau de Westbrook, mais qui étaient, voilà, dans ce lot de joueurs que je pouvais mettre en 20. Et bah, finalement, j'ai opté pour un joueur qui avait un petit peu plus de continuité, en tout cas, en matière de performance en playoff et qui aussi sur le point de l'attente qu'on avait vis-à-vis de lui avait un peu plus performé. J'ai donc mis Donovan Mitchell en 20 et j'avais plus Westbrook aux alentours de du coup après on va dire refonte de mon classement autour de 24-25.
C'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord, Madiane, Adrien, 24-25 en gros pour Russell Westbrook?
J'étais en fait en train de me dire ok, il revenait de blessure sur ses playoffs, etc. Et du coup, je me suis réintéressé un peu plus précisément au cas et j'avais pas assez pour le défendre. Vraiment, si Houston avait pu avoir une chance, il fait partie de ceux qui les ont gâchés. Et je me suis dit, tiens, est-ce que s'ils avaient pas tradé Chris Paul, ils auraient peut-être pu poser plus de difficultés? Et ma réponse a été oui. Et à partir de là, sachant que j'ai mis Chris Paul tout en bas de mon classement, et il partait derrière, et forcément le tiers derrière, il était au-delà de la 20e place, 23, 24, 25.
Adrien, quelques mots, est-ce que t'es d'accord avec ce qui a pu être dit par Alan un peu plus extrême entre guillemets, et Madiane et Elias sur la non présence de Westbrook dans ce classement?
Donc ouais, bon, effectivement, j'ai repris un peu ce que tu disais, le concept des noms. C'est-à-dire qu'au début, quand on couche le DH20, on commence à mettre plein de noms, puis après on essaye de les agencer. Donc effectivement, au début, j'ai mis Westbrook, mais après je vais reprendre ce que disait d'une part Elias, et de l'autre Madiane. C'est que effectivement, Westbrook, il est peut-être sur une pente. Alors il y a les circonstances atténuantes de la blessure, etc., mais peut-être sur une pente descendante, on va dire, par rapport à l'évolution de son jeu. Moi, sur ses playoffs, je l'ai trouvé. Par exemple, à beaucoup plus prendre de pull-up, à beaucoup moins agresser le cercle. Alors ça s'explique peut-être par sa blessure, mais ça peut s'expliquer autrement. Et par rapport aux autres joueurs de ce tiers, effectivement, Westbrook, pour moi, plus je réfléchissais, plus il descendait pendant que d'autres montaient, et donc il s'est retrouvé à sortir du top 20.
Ça s'explique surtout par le fait que les Lakers, parce qu'on sait qu'il est arrivé en d'abord, il a dû revenir d'abord de sa blessure et ensuite entamer donc ses playoffs directement d'entrée de jeu par les Lakers. Et bah en tout cas, s'il y a bien une des raisons pour lesquelles il pouvait ne pas attaquer le cercle, alors qu'il l'avait fait pendant toute la seconde partie de la saison, en modifiant un peu son jeu et en étant bien meilleur que ce qu'il n'était au début de la saison, c'est justement aussi parce que les Lakers proposaient, on va dire, une des plus grosses protections de cercle de la ligue, et ça expliquait aussi le fait que Westbrook pouvait pas donner sa plénitude dans cette série.
Après, on va revenir dans ce classement-là quand tu, de base, quand tu es incapable de mettre un shoot extérieur dans la NBA en 2020, il va falloir que tu sois très très fort dans beaucoup beaucoup de domaines.
Exactement.
On va revenir
encore un argument pour Jimmy.
Bah contre Jimmy. Oui, selon le point de vue, parce que de tête dans notre 20 agrégé, il y a combien de personnes qui shootent pas vraiment? Il y en a ils sont tous meilleurs que Westbrook déjà au shoot en fait. Tous, même les big men.
Jimmy met plus chance.
Donc Tom en quelques mots,
pas en pourcentage.
Pas, peut-être pas en pourcentage, mais enfin, faut pas oublier que Westbrook, je voyais la stat depuis 2013, c'est le, avec un tel volume de shoot, il est bon dernier, enfin bref, à 3 points. Tom, en quelques mots, pourquoi tu, du coup, t'as conservé Westbrook dans ton top 20 en complément de ce que t'avais dit un peu auparavant?
Alors du coup, moi, je l'ai conservé pour plusieurs raisons, enfin trois grosses raisons. Alors j'ai pas mal considéré en fait la partie de janvier, juste à partir de janvier jusqu'à avant l'arrêt de la saison. Là, ça, c'est une période d'environ 23 matchs où Harden était un petit peu plus en difficulté. Et puis Russell Westbrook a montré qu'il avait quand même les épaules d'un leader d'équipe, notamment offensivement, où il est à 38% d'usage, 1,16 points par possession, par shoot tenté, pardon. Avec presque 58 de true shooting, donc c'est quand même énorme pour un joueur qui, enfin, avec un tel volume, d'avoir une efficacité comme ça, qu'on connaît les déchets qu'il y a dans le jeu de Westbrook, notamment sur tout ce qui est perte de balle. L'autre raison, c'est qu'en fait la bulle, j'ai nuancé, puisque il a repris en milieu de série face à OKC, donc il a pas eu le temps de se mettre en jambe. C'est quelqu'un qui a eu Donc du coup, c'est quelqu'un qui a eu la Covid-19, plus sa blessure au quadri, et reprend directement en playoff. Donc pour moi, on n'a pas vu le vrai Russell Westbrook qu'on aurait pu avoir. Donc c'est pour ça que j'ai un peu nuancé du coup la bulle, même si il y a des éléments qui peuvent être retenus contre lui par rapport à ses participations précédentes en playoff, où il n'y a pas forcément eu d'évolution. Donc du coup, vu qu'il a eu peu de temps de se mettre en condition et qu'il a eu des adversaires difficiles d'un coup, ça aussi, je l'ai un peu nuancé, c'est pour ça qu'il est encore resté dans le top 20. Autre chose, c'est le côté variance avec Russell Westbrook. Russell Westbrook, c'est un joueur qui a énormément de variance dans ses performances, puisque qu'il soit bon ou pas, il va garder le même jeu. Et les jours où ça va pas rentrer, ben tu perds. Les jours où ça rentre, tu gagnes. Et en fait, les défenses, un peu comme on le voit avec les shooters comme Duncan Robinson, qui te mettent 10-3 points ou qu'ils en mettent qu'un, les défenses les défendent pareil parce qu'ils ont la volonté de prendre les shoots, ils ont la volonté d'avoir du volume. Et le volume, c'est dangereux pour un adversaire quand t'es en réussite. Donc du coup, il a quand même gardé ce volume-là et ça lui donne beaucoup de variance dans ses performances. Donc du coup, je trouve que c'est à son max, il peut aller un petit peu plus haut. Et après, il n'y a pas tous les joueurs qui sont pas capables d'assumer un tel volume. C'est un joueur qui a pas forcément peur d'échouer. On l'a vu, sa fin de match totalement ratée contre OKC. Si lui, il prend pas la balle, Harden ne le fait pas. On voit qu'Harden limite se cache. Il veut pas prendre la balle. C'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Et du coup, et je pense que ce sont des choses qui m'ont fait considérer le cas de Russell Westbrook dans le top 20. Même si je pense qu'il y a d'autres choix. Il y a d'autres joueurs que j'aurais peut-être préféré. Mais le côté vraiment, initiation et, côté volume, puisque il y a des joueurs qui sont plus bas mais qui sont moins capables d'assumer un tel volume, puisque assumer le volume mauvais NBA, c'est quelque chose de très dur. Il y a pas mal de joueurs qui sont en deuxième option qui n'arrivent pas à le faire, ou même si ils se mettent à le faire, ils seront aussi également moins propres, et je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est important, assumer le volume. Voilà pour Russell Westbrook.
Alors on y reviendra, on peut pas le format nous oblige à accélérer, mais sur pas mal de réflexions, j'ai vu Alan et moi-même un peu lever les sourcils.
Tiquet.
Parce que je trouve qu'on peut pas considérer que c'est un avantage que Westbrook prenne ses responsabilités parce que Harden les prend pas, en fait. Enfin, c'est plutôt le problème de l'autre, c'est pas...
j'ai approuvé, mais je le mets au discrédit d'Harden, cette situation.
Oui, c'est
pas censé arriver.
C'est plus d'Harden qu'à l'avantage de Westbrook. Et puis, on va revenir, enfin, on a les réseaux sociaux pour interagir, mais Moi, je te donne quelques mois, Alan, pour finir, mais rien que moi, dans ma façon dont j'ai imaginé le classement, à l'heure actuelle, Westbrook, c'est la combientième option sur le terrain, il doit avoir combien de meilleurs joueurs défensifs que lui dans ton équipe, pour être crédible? 3?
Au moins 3.
Et moins offensivement, 3. C'est ce que j'appelle un 2,5. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans ces...
Et encore.
Donc là, on y reviendra, c'est trop bas pour mon classement. Tu peux pas être si bas. Alan, je te laisse conclure le segment Westbrook.
Deux choses. Je reviens sur deux arguments. Tom, t'as dit qu'il a été excellent donc à la période de janvier sans Harden, c'était quand il y avait plus de mecs pour lui faire des lobes, c'est quand on lui avait écarté le terrain complet pour qu'il attaque le cercle. Donc c'était quand même un environnement nouveau et c'est là où il a excellé avant d'échouer pendant les playoffs. Et surtout, ouais, on le défend pareil, mais en fait on le défend pas. C'est-à-dire qu'il y a personne qui se met avec lui sur la ligne à trois points comme Duncan Robinson, Kyle Korver, les shooters, on le chasse pas Russell Westbrook. Donc, on le défend toujours pareil, c'est vrai, mais on le défend pas comme, on lui accorde.
Comme une menace, comme voilà, une menace et ça. comme une
sur
menace.
Sur la ligne à trois points, en tout cas.
Crédible.
Sur la ligne à trois points. Ouais. C'est juste ça que je voulais dire. Après, le facteur Covid, blessure, manque de rythme. Je pense que ça a pas aidé. Et peut-être que la bulle ne lui a pas aussi, était bénéfique, on sait pas, il a pas trop beaucoup parlé de tout ça, mais peut-être que c'était un moins bénéfique que pour un autre joueur.
Et là, je me rends compte qu'on est au quatrième point de nos 8 de cette émission. Le timing va être complètement impossible à tenir. Ilias, je reviens vers toi parce qu'on va parler, on change un peu de dimension, on va parler de quelqu'un. Alors on parle de Butler, le gagnant de la bulle, peut-être le perdant, Westbrook. Quelqu'un qui n'y était pas, et c'est d'ailleurs la personne la mieux classée qui n'y était pas. Oui, c'est ça. C'est Bradley Beal. Tu l'as mis 14e de ton classement. Pourquoi si haut? T'as 2 minutes pour nous convaincre que Bradley Beal est bien un top 15 joueur NBA.
Alors, tout simplement parce que, en fait, Bradley Beal, il s'est frayé un chemin, en fait, dans mon classement. En fait, il a coché différentes cases des critères que j'avais établis, là où d'autres ne les remplissaient pas, alors que je considérais pourtant ces joueurs meilleurs que lui. Je sais pas si j'arrive plus ou moins à me faire entendre. En gros, j'ai des joueurs comme Kyrie Irving et Paul George derrière lui, alors que je considère ces deux joueurs comme supérieurs intrinsèquement. Mais disons que les derniers faits d'armes de ces deux joueurs les ont pénalisés, les ont fait chuter dans mon classement, et je pense que Bradley Beal, il est aussi desservi par le contexte dans lequel il est, c'est-à-dire que si il avait pu bénéficier ces dernières années d'un effectif autre que celui des Wizards, avec, on va dire, tout son lot de mauvais management et de poisse concernant son franchise player, entre guillemets, en la personne de John Wall, je pense qu'on aurait pu voir Bradley Beal, on va dire, dans un contexte beaucoup plus favorable pour pouvoir justifier son classement. Mais après, il vient quand même, selon moi, cocher des différentes cases. Déjà, celle du fait d'assumer son statut de leader. À aucun moment, il ne s'est plaint, par exemple, du contexte dans lequel il était. Il l'a même assumé jusqu'à prolonger à Washington. Évidemment, les billets verts sont là aussi pour légitimer tout ça, selon lui. Mais voilà, on parle d'un joueur qui a tourné à plus de 30 points de moyenne, avec des énormes perfs au-delà des 40 ou de 50 points, qui était borderline All-Star et qui a même été, selon beaucoup, snobé, que ce soit pour l'All-Star Game ou que ce soit pour les All-NBA Team. Donc, en gros, il a un petit peu la bonne place. Mais on va dire que c'est quand même quelqu'un qui a dû... faire face donc à tout son contexte et qui malgré celui-ci a performé. Et je pense que quand même si voilà, on était amené à, on va dire, interchanger la place de Bradley Beal avec beaucoup de joueurs de ce classement, je pense que non seulement on pourrait justifier la place que je lui donne, mais en plus on pourrait peut-être, pourquoi pas, le voir légèrement au-dessus, ou alors en tout cas à la place qui est la sienne et que je lui donne, c'est-à-dire au 14e rang.
Je vais continuer avec toi, Adrien, parce que ça tombe bien. Tu n'as pas Bradley Beal dans ton classement. Alors, on l'a dit, c'est assez compliqué. Souvent, les joueurs qui sont absents finissent 23, 22, 21, 24, bref. Pourquoi tu n'as pas Bradley Beal dans ton classement?
Donc, ouais, moi, Beal, je vais un peu reprendre les arguments d'Ilias contre lui. C'est-à-dire qu'effectivement, la question de se dire, est-ce que si on met Beal dans une autre des équipes un peu plus cotées, il serait forcément plus performant, ça me semble être une question où disons que la question est un peu trop vite répondue pour moi, pour reprendre une expression qui a été fameuse cet été.
JP.
C'est vrai que son profil, notamment de shooter et de très fort scoreur, amène à penser qu'il pourrait l'être, mais ses références commencent à dater un peu en playoff. Elles sont plus très impressionnantes. Et en fait, au moment où j'ai fait le classement au début, j'avais Bill dans ce classement. Et il est descendu progressivement parce que je me suis dit, en fait, si je mets Bradley Bill à cet endroit-là, il y a beaucoup d'autres joueurs dans la ligue qui sont, enfin beaucoup, il y a quelques autres joueurs dans la ligue qui sont dans des situations peut-être un peu similaires de très forts scoreurs dans des équipes de bas de tableau que je vais avoir envie de mettre également à cette place-là. Et je pense notamment à des Trey Young, des Zach Lavine, des joueurs de ce style-là qui ont des chiffres alors peut-être un peu moins importants que ceux de Bradley Beal. Après, il était dans une équipe qui défend pas du tout, il se bougeait pas du tout en défense. En fait, c'est tous ces profils, ce tiers de joueurs-là qui, pour moi, fait que Bill a dégringolé plutôt autour de la 25-30 que du 20-25, comme on parlait, par exemple, pour Russell Westbrook, même si j'admets la possibilité qu'il le soit, mais j'ai besoin de références. On a parlé des performances play-off par rapport aux performances saison. Pour l'instant, Bradley Bill, depuis qu'il est à la tête, entre guillemets, des Wizards, a fait des très fortes performances en saison régulière. À voir, donc, petit astérix, on va dire, de mon côté.
Madiane a rugi. Pourquoi, Madiane, tu veux réagir?
Non, mais parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette liste qu'on aurait mis à la place de Bradley Beal, qui auraient scoré pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était dans une équipe qui a décidé qu'il ne défendrait pas une cacahuète, mais ils n'ont pas défendu. Et ils pouvaient pas et ils l'ont pas fait. Mais au moins, c'était clair. Mais c'était une... Il n'y avait pas le personnel, mais c'était une équipe arty. Ah, c'était open fire, tout le monde tirait, c'était parti, et le voir mettre de telles moyennes de points dans cette équipe, c'est normal.
C'est normal, les gars. Ça,
c'est normal. Ils étaient tout tournés vers l'offensif. Il y a bien un moment
en fait,
où...
Madiane, pour peut-être nuancer, tu veux dire c'est normal pour un joueur de cette trempe.
Ouais, pour un joueur de cette trempe. Et je pense qu'il y en a d'autres. Tu dis un Devin Booker, tu as open fire comme ça, qu'il en mette autant... Ça me choque pas. Il y a pas mal de joueurs. Et puis, pour les références en playoff.
Devin Booker, il est top 20.
Il est top 20.
Moi, je l'aide, Devin Booker. Bon. Pour les,
je l'ai,
pour les mêmes
je l'ai
raisons.
Pas tout à fait.
C'est parce que tous, vous surévaluez l'attaque. Bon. Mais ça, c'est un autre débat.
Mais bon, on va reparler du cas Devin Booker, je pense. Mais quoi qu'il arrive, il y a des joueurs. Enfin, les références de playoff de Bradley Beal. Kyrie Irving, il met 40 points en finale, je pense, au même moment où Bradley Beal a ses dernières références de playoff.
Ouais, hein. mais Kyrie Irving, il joue avec LeBron James.
Il en met 40 en finale.
Il
en met 40 en finale, mais il tire de la gaine sur la tête de Stephen Curry. Enfin, non. Non les gars, non.
Parce que autrement, c'est je suis assez d'accord avec. Moi, je reviens sur ce qu'a dit Adrien. Je suis d'accord. On peut. C'est facile en fait de dire ah il avait un mauvais contexte donc il a fait ça. Puis je suis pas aussi persuadé que le Bradley Beal qu'on voit en ce moment, on peut le retranscrire dans une bonne situation. Bradley Beal qui a beaucoup le ballon dans la main. Bradley Beal qui a un playmaker. Est-ce que c'est un meilleur playmaker que beaucoup de mecs en haut du classement? Je suis loin d'être sûr que ça.
Justement,
et
c'est défensif
aussi.
C'est justement le point d'interrogation au-dessus de Bradley Beal qui me le fait, on va dire, grimper dans le classement. On va dire qu'il bénéficie, on va dire, du plantage des autres joueurs, tout simplement. C'est-à-dire que là où certains joueurs, je les attendais beaucoup plus haut, notamment lors de leur performance en play-off ces dernières saisons, bah... On va dire que c'est vrai que voilà, Bill va être avantagé à ce niveau-là parce que lui, on a toujours cette interrogation le concernant. Mais je suis navré quand on étudie un petit peu le contexte dans lesquels ont été par exemple des joueurs comme Paul George ou comme Kyrie Irving. Enfin, je suis navré aujourd'hui, c'est devenu limite des joueurs pénalisants pour leurs équipes.
Ouais, attends, Ilias, je pense que tu vas déchanter très fortement parce que là, il y a tout le monde qui est en train de s'arracher le trade de Bradley Beal. Bradley Beal en deuxième ou troisième option dans une équipe avec un autre joueur de top 20. Je demande à voir.
Et il en dit quoi, Jamal Murray?
Moi en playoff.
Ah, on garde. Oh, la transition est parfaite.
Nous verrons
parce que
ça.
On doit parler. Et Ilias, il est vraiment, j'ai des alliés dans ce truc. On doit parler de la nouvelle hiérarchie des jeunes arrières à l'Ouest, même si je pense que Adrien a totalement raison sur le profil Bradley Beal. Je ferme la parenthèse comme ça. Et vu que je suis présentateur, j'ai tout pouvoir.
Nous sommes censurés sur Bradley Beal.
On est censurés sur Bradley Beal.
Dans cette émission, on n'aime pas les beaux joueurs. Ça m'énerve.
Parce que honnêtement, je ne peux pas donner de droit de réponse à tout le monde parce que les droits de réponse durent 5 minutes.
T'as raison.
J'ai le mauvais rôle. Tout le monde va me détester. Voilà. Mais bon, ceux qui ne verront pas apparaître 3h30 sur leur application de podcast pourront me remercier. On va parler de la jeune hiérarchie des arrières à l'Ouest. Parce qu'entre Donovan Mitchell, Devin Booker et Jamal Murray, il y a pas mal de personnes qui se sont affirmées. Alan, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Tu les classes comment, toi ?
Ouais, super compliqué. Super, super compliqué. En gros, tu vois, on parlait du tiers. Moi, il fallait découper à 20, mais en vrai, j'ai des joueurs en 22, 23 qui sont quand même que je classe à peu près dans la même hiérarchie que les joueurs en 18, 19, et ça se retrouve dans cette hiérarchie des jeunes arrières. C'est-à-dire que j'ai Devin Booker en 19e meilleur joueur NBA, Jamal Murray en 20e. Sur Jamal Murray, je vais aller me prendre un cocktail et je vais vous laisser parler. je vais vous laisser vous en parler. Ça va être bon. Et Donovan Mitchell en 21, malheureusement que j'ai, voilà, juste, pour moi c'est vraiment des joueurs assez proches. C'est des joueurs, donc Jamal Murray, lui, a fait les moins bonnes saisons régulières des trois, je pense, hein, les moins bonnes saisons régulières des trois. Il a le plus de références en playoff, mais c'est très impacté sur ses playoffs 2019-2020. Même si contre Portland, je tiens à le rappeler, en 2018-2019, Jamal Murray était très très bon. Devin Booker, pour moi, c'est le meilleur joueur des trois. Donc je le classe devant, mais il n'a joué zéro match de playoff. C'est pour ça qu'il est que 19e, mais pour moi, il a vraiment le potentiel pour être plus haut. En tant que ce qu'il a montré son développement en tant qu'initiateur offensif, je pense que c'est le meilleur initiateur offensif des trois. Je pense que c'est le plus fort attaquant aux trois niveaux, mi-distance, proche du panier, à trois points, même si bon, Jamal Murray a quand même vrillé complet dans la bulle, ce qui fait que ça peut te permettre de nuancer ça. Et Donovan Mitchell, c'est celui qui est drafté le plus récemment, celui qui a eu des références en playoff tout de suite, qui a porté l'équipe, et qui, franchement, te sort une série monumentale au premier tour, et juste on en parle moins parce que Jamal Murray sort une série encore un tout petit peu plus forte sur les derniers matchs, mais Donovan Mitchell est incroyable. Pour moi, c'est trois joueurs vraiment qui sont dans la même sphère. Ce qui me surprend le plus, c'est que Jamal Murray ait rejoint cette sphère là aussi rapidement dans la bulle de 2020. Et pour moi, je classe Devin Booker en tant que meilleur joueur. Ça va un petit peu à l'encontre de ce que je pouvais dire dans mon intro en disant que les playoffs étaient un juge de paix, que je mettais de l'accent sur les playoffs, c'est-à-dire que dire ça et après mettre Devin Booker plus haut, un chouïa plus haut que Murray et Mitchell, ça peut faire sourire. Mais je pense juste que si je commence mon équipe NBA, je préfère avoir Devin Booker que Jamal Murray et Donovan Mitchell. Mais ces trois joueurs, c'est 19A, 19B, 19C, les trois.
Tom, je t'offre ton droit de réponse, pas sur la même question, hein, mais je t'offre ton droit de réponse sur ce classement.
Scandale.
Mitchell, Booker, Murray.
Moi, en fait, c'est un peu le triptyque, en fait, qui me rappelle ce qu'on pouvait avoir à l'époque avec, par exemple, Paul George, Kawhi Leonard, Jimmy Butler et Gordon Hayward. En fait, moi, ce triptyque-là, je trouve que, un peu comme Alan, hein, je trouve que Devin Booker est un meilleur initiateur que les deux autres joueurs. Alors, je vais m'expliquer. Je pense que il est en avance sur la notion de tempo, la notion de tempo offensif. Je ne sais pas comment matérialiser ça, mais dans la notion de tempo offensif, Devin Booker, il est vraiment le jeu est vraiment au ralenti, mais vraiment au ralenti. Il étudie toutes les options avant de choisir le. La bonne option, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans son jeu et qu'il est devenu en fait un peu. Moi, quand je vois par exemple le jeu qui se passe, moi quand je vois ce qui se passe en playoff. Devin Booker, on peut le mettre dans une équipe de playoff, pour moi il y a aucun problème. Pour moi on peut le mettre à Miami, Devin Booker, pour moi il y a aucun problème. Ça changerait quelque chose pour Miami.
Si il y a problème pour l'Est.
Franchement, ça changerait vraiment quelque chose pour Miami. Il y a problème pour l'Est par exemple, tu vois. Mais Devin Booker, la raison pour laquelle je l'ai préféré aux deux autres. Alors, pour moi en fait, Jamal Murray n'est pas le premier initiateur de son équipe. Tout simplement. Le système offensif est autour de Nikola Jokic et Jamal Murray est inclus dedans, mais c'est pas lui qui amène la plus grosse value, entre guillemets, offensive à cette équipe-là, même s'il y a eu l'explosion dans la bulle. Mais l'explosion dans la bulle, pour moi, elle est plus liée à une notion d'adresse qu'à vraiment une progression sur sa sélection de tir. Pour moi. Après ça, c'est mon avis personnel. Donc du coup, Donovan Mitchell aussi, lui, il est dans le système, entre guillemets, parfait pour lui, où il a un rimroller et des gens qui stretch autour et qui sont capables de playmaker à côté de lui. Donc du coup, Il est aussi dans des parfaites dispositions. Et là où Devin Booker, lui, il a un rôle vraiment central, en fait, dans tout le jeu offensif de l'équipe. Et c'est beaucoup moins construit pour lui. C'est beaucoup moins construit pour lui et il doit se débrouiller. C'est lui qui amène c'est lui qui amène vraiment la valeur à cette équipe-là. C'est pour ça que je l'ai un petit peu un cran au-dessus des deux autres.
Madiane veut réagir. Je te donne la parole, Madiane, sans oublier les autres.
Je dois admettre effectivement que moi j'ai une grosse enflammade autour des deux, à la fois Jamal Murray et Donovan Mitchell, mais en fait, enfin, leur achievement sur des playoffs sont assez dingues pour leur âge. Alors effectivement, c'est peut-être un peu haut. Je l'admets en regardant et en re-regardant, j'ai fait ça dans mon coin. Je re-regarde et je me dis bon, il y a une petite enflammade. Néanmoins, Jamal Murray vient de faire une campagne de playoffs en 50-45-89-7. C'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé dans cette bulle. Alors, quel est son niveau? Si son niveau est ce qui s'est passé dans cette bulle, là où il est, actuellement chez moi, est justifié et peut-être qu'il peut gratter un petit James Harden au passage. Enfin, ça peut être un truc assez ouf. Le niveau qu'il
c'est
a
pour
pris
ça
dans
que
cette
vous
bulle est dantesque. Mais si son niveau n'est pas ce qui est dans cette bulle, la 10e place que je lui donne n'est pas justifiée. Là, je me suis dit vraiment, ce que j'ai vu était vraiment beaucoup trop fort et vraiment, vraiment ouf en fait. Ils doivent perdre le Game 1 s'il n'y a pas lui. Contre Utah, ils remontent de 3-1. S'il n'y a pas lui, c'est mort. Enfin, oui, il est dans des conditions parfaites, mais... Enfin, c'est incroyable ce qu'il a fait, le gars. C'est tout bonnement, c'est démentiel. Pareil, Donovan Mitchell, là, il y a de la régularité, parce que c'est pas la première fois qu'on l'attrape en train de faire ça. Il est rookie, il balance des 41 points dans les grands morts d'OKC. Enfin, c'était un truc de dingue. Le mec était rookie, 41 points en playoff, rookie. J'étais là en mode, OK, c'est pas possible. Et là, il perd cette série, mais bon, une gamelle et franchement il y a Bogdanovic, est-ce qu'il la perd
avec une pointe à 57 points quand même hein, dans cette série hein. C'est monstrueux ce qu'il a fait
sale.
C'est incroyable. Et Donovan Mitchell par contre, ok, ça peut paraître haut, 13e, néanmoins là il y a beaucoup trop de références. Et Murray, je parie un peu sur sa pointe actuelle. Mitchell, il y a quand même beaucoup, beaucoup. Alors, il est dans des bonnes conditions, etc. À la base, l'équipe du Utah, elle est pas construite pour lui. Et pourtant, il fait des dingueries. Il est drafté. Personne l'envisage à ce niveau-là.
Oui, mais ça fait deux ans que l'équipe, elle est réfléchie comme lui en tant que... Ça fait deux ans. Alors, je m'octroie mon moment pour convaincre de Jamal Murray, parce que moi, ça fait partout, ça fait trois semaines que je lis que Jamal Murray, la bulle peut-être, explosion, etc. Quand on analyse les statistiques avancées, les playoffs de l'année dernière de Jamal Murray sont déjà historiques. L'année dernière, il n'y avait pas de bulle.
Ils sont déjà bons.
Ouais, et il les sauve. Et il les sauve deux fois.
On voit que ça fait deux fois de suite que Jamal Murray fait campagne de saison régulière, je parle de 2018-2019, bonne. Il explose en playoff. Campagne de saison régulière 2019-2020, bonne. Il l'explose en playoff. Et en fait, moi, c'est juste parce que ce mec a des capacités qui sont extrêmement valables en playoff. Sans faire un parallèle avec Kyrie Irving, il est capable, sur du 1 contre 1, d'être un des... Il était sur la bulle statistiquement et même visuellement un des 5 meilleurs joueurs. Ce que n'est pas Donovan Mitchell. Donovan Mitchell fait des pointes, mais Donovan Mitchell n'est pas un joueur qui, d'un point de vue 1 contre 1, isolation, est à ce point élite. Donovan Mitchell n'est pas... C'est un joueur qui a déjà plus de fluctuations, je trouve, qu'un Jamal Murray. Ensuite, beaucoup de variance, c'est ça. Ensuite, moi, je trouve vraiment que Jamal Murray, ce qu'il fait, il y a très peu de joueurs NBA qui sont capables de le faire. Et dans un contexte playoff, et c'est là où, en fait, je m'écarte un peu de tout le monde, c'est que pour moi, les playoffs sont importants, mais les playoffs sont importants dans les capacités qui sont mises en avant dans les playoffs. Que le mec ait des références, c'est bien, mais en fait, faut creuser la référence, bref. Jamal Murray, pour moi, et je le mets au-dessus, quant à Devin Booker, je vais faire mon Pascal Pro, mais ça n'engage à rien de dire que ce qu'il fait.
Bon, tu vaux mieux que ça.
je vaux mieux que ça, ouais. Mais ça n'engage à rien, en fait, de dire que ce qu'il fait, ça s'adapte en playoff. Et le tempo, oui, c'est le tempo de la saison régulière. On voit avec bien des joueurs du classement que ceux qui font, en fait, ça ne se reproduit pas. Et mener le jeu en playoff, alors le shoot, ça se reproduit. Mais alors mener le jeu d'une équipe en playoff et mener le jeu d'une équipe en saison régulière qui a pas joué un match important depuis le début de la carrière de Devin Booker, c'est différent.
Jamal Murray mêle pas totalement le jeu de Denver.
Ah, mais j'ai jamais dit ça, Tom. Mais je dis qu'en fait...
T'as dit mener le jeu d'une équipe en playoff, c'est pas pareil.
Ah, mais j'ai jamais dit que Jamal Murray menait le jeu de son équipe en playoff. J'ai dit qu'il apportait...
Mais tu viens de le dire.
Non,
je disais par rapport à Booker, cet argument-là.
Par rapport à Booker, s'agirait d'écouter, monsieur Feller. J'ai dit par rapport à Booker. Par rapport à Booker, là où Jamal Murray, je trouve, lui est... On y reviendra par rapport à Kyrie Irving. Moi, c'est un argument que je retiens pas parce qu'en fait, on met Irving aussi haut sur les mêmes capacités, en fait. Donc, je vois pas où est le problème de Jamal Murray où Irving n'a jamais été l'initiateur numéro un. On va peut-être continuer. Je vais revenir sur toi, Elias, parce que je te donne le mot de la fin sur ce point-là, sur Mitchell et Booker et qui est la dernière personne?
Jamal Murray.
Que tu viennes défendre.
Alors, j'ai les mêmes arguments qu'Alan pour défendre, on va dire, le cas de Booker que j'ai mis au-dessus de Mitchell. Mais là où j'ai Mitchell un chouïa devant Jamal Murray, c'est justement dans la répétition des performances, comme le soulignait Madian. C'est-à-dire que ce qu'il a fait cette saison en playoff, c'est pas non plus la première fois. Et c'est juste le point et la petite parenthèse, en fait, que je voulais ouvrir et fermer rapidement, c'est que sur un des critères qui est selon nous tous un des plus déterminants, Donovan Mitchell a les plus grosses, on va dire, références en playoff. Et ça, pour moi, c'est quand même quelque chose qui compte. Et c'est la raison aussi pour laquelle je l'ai devant des joueurs comme Ben Simmons. Tu vois, j'avais un espèce de ballotage à la place de numéro 20. J'avais du Donovan Mitchell, j'avais du Russell Westbrook, j'avais du Ben Simmons, j'avais quelques joueurs comme ci, comme ça. J'avais même du Bam Adebayo, mais finalement, j'ai opté pour la continuité dans les performances en playoff de Donovan Mitchell.
Mais il manque de playmaking un peu, Mitchell.
Ouais, mais quand tu mets 57 points dans un match, c'est-à-dire à deux trois paniers du record de Jordan, c'est que ça va quand même. Tu peux te permettre un petit déficit de playmaking, sachant que personne peut t'arrêter, quoi.
Putain, s'il avait battu le record,
pas sur son match, mais au global. Non, mais par exemple, tu vois, je pense que par rapport aux deux autres, c'est celui qui a le moins de capacité naturelle de playmaking.
Ça, Tom, c'est sûr, c'est la raison
pour
laquelle.
C'est quelque chose qui est hyper important pour moi.
C'est la raison pour laquelle, tu sais, en fonction des différents critères, par exemple, j'ai Booker devant. Parce que pour moi, c'est absolument indéniable, sur la valeur intrinsèque du joueur et sur, on va dire, la capacité à construire une équipe autour, je prends tous les joueurs Booker. Ça, c'est clair et net.
Madian, je te laisse le mot de la fin avant qu'on enchaîne.
Ouais, sur Donovan Mitchell, s'il y a bien une interrogation, c'est est-ce que si on lui enlève Rudy Gobert, qui est peut-être l'un des meilleurs poseurs d'écran de cette ligue et qui a peut-être les meilleurs screen assists, est-ce que c'est pareil? Et je me pose sincèrement cette question. S'il y a une limite à lui donner, c'est peut-être celle-ci.
Ouais, parce qu'il joue 50% de ses possessions en pick and roll, Donovan Mitchell, sur les playoffs. Donc en gros, c'est pour ça que je parlais du 1 sur du de la création à partir de rien. Je pense que c'est pas le meilleur des trois. On va continuer avec un autre absent de cette bulle, qui n'est pas dans le classement agrégé, c'est Klay Thompson qu'on retrouve chez Tom et qu'on retrouve le plus haut chez Adrien. Je retourne vers toi, Adrien, 14. Pourquoi Klay Thompson est si haut? Est-ce qu'on l'a pas oublié un peu vite?
Je pense qu'on l'oublie un peu vite, et par rapport à ce qu'on disait un peu en début de podcast pour expliquer comment on construisait le classement sur la capacité d'un joueur à s'intégrer dans une équipe et à élever et le plancher et le plafond, je pense que Klay Thompson, c'est peut-être la meilleure, on y reviendra, mais la meilleure des deuxièmes options, entre guillemets, que tu puisses avoir dans cette ligue, parce qu'il t'amène tout ce que tu veux. Il peut shooter, défendre très fort, prendre feu et gagner des matchs à lui tout seul. Et les matchs où c'est pas lui qui doit prendre la lumière, il sait aussi s'effacer et faire le sale boulot, entre guillemets. Et pour moi, Klay Thompson, c'est quand j'ai un des top 10, on va dire, des joueurs top 10, en tout cas des 2-3 premiers tiers, une fois dans mon équipe, le deuxième joueur que je veux mettre à côté, je pense qu'en priorité, je prends Klay Thompson. Et c'est pour ça qu'il est aussi haut. Il y en a peut-être d'autres autour là, en première option, qui seraient plus intéressants que Klay Thompson. Mais si je dois prendre un deuxième joueur, je crois que peu importe qui j'ai pratiquement, le deuxième joueur que j'ai envie de prendre, c'est Klay Thompson dans tous les cas. Donc c'est pour ça que chez moi, il est 14.
Avant de donner la parole à Tom, ton avis sur la question, Alan, parce que tu fais partie de ceux, donc avec Ilias, Madian et moi-même, qui n'ont pas mis Klay Thompson.
Je l'ai.
Ah, j'ai mal vu le classement. Donc tu fais partie des gens avec Ilias et moi-même qui ne l'ont pas dans leur classement. Pourquoi?
C'est une bonne question. C'est je pense que je là où Adrien met en avant le plancher que t'apporte Klay Thompson dans une équipe de playoff NBA, moi je mets en avant son manque de plafond si c'était ma première option ou que j'avais un besoin de création balle en main d'un de mes deux meilleurs joueurs de mon équipe. En fait, ça va pas plus loin que ça. Et là où je trouve aussi que je trouve que l'apport de Klay Thompson, c'est un peu comme avec Jimmy Butler, par exemple avec Miami, il est difficilement quantifiable statistiquement et il est très quantifiable visuellement, mais voilà, il joue avec le deuxième meilleur meneur de tous les temps, qui est Steph Curry. Il a joué avec pendant trois saisons le poste 3 le plus létal offensivement de tous les temps, qui est Kevin Durant. Et il était là, il était ce troisième joueur, avec aussi Prime Draymond Green, qui était aussi ce qu'il était. Donc en fait, je vais pas dire les phrases bateau du « Oh, j'aimerais bien voir Klay Thompson dans un autre contexte où il serait option numéro 1 pour pouvoir l'évaluer. » Non, c'est pas
quelque chose... Le marronnier.
C'est pas quelque chose qui serait très intéressant, je pense. Mais juste, du fait que ce qu'il a à côté, je peux pas le mettre au-dessus de joueurs qui sont à côté. Ça montre surtout qu'il y a une concurrence dans le bac court en NBA aujourd'hui qui est trop trop fort, tout simplement.
Mais est-ce que je peux poser juste une question du coup à vous qui n'avez pas Klay Thompson? Est-ce que vraiment tu mets Paul George devant Klay Thompson dans ce style-là?
Oui, parce que
la défense,
le playmaking à l'aile, voilà, juste ça. Même si bon, on est dans une période. Klay Thompson a aussi le bénéfice de pas avoir joué dans une campagne de playoff. Peut-être que ça se serait mal passé. Chez Kyle Ben, on a souvent parlé tous les deux. Est-ce que Klay Thompson a eu des moments de trou en playoff? Par moi, je pense que Ben pourra peut-être en parler. Je sais pas.
Ouais. Et du coup, par rapport à Klay Thompson, moi, je suis assez d'accord. J'ai toujours trouvé qu'il avait un collier d'immunité par rapport à ses mauvaises performances en playoff, qui sont un peu cachées à côté de celle de Curry, qui a souvent eu du sucre cassé sur son dos. Je me pose aussi la question de sa valeur défensive. Si je reprends encore une fois ma question, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, Klay Thompson puisse être le deuxième meilleur défenseur d'une équipe qui gagne le titre. Pour moi, il est troisième. Et clairement, je vois que ça pose des questions, mais je pense qu'il est plus troisième. Déjà, en l'occurrence, tu peux défendre le fait qu'il était déjà troisième dans tous ses titres. Et offensivement, c'est un 2. Je pense que c'est un 2, 2,5. Donc, encore une fois, sur mes classements, c'est trop bas pour entrer dans le top 20. Surtout, et en plus, c'est la question de la valeur d'être un défenseur sur les postes arrière et pas ailier. Madiane, je te donne vite fait la parole avant qu'on enchaîne très vite sur ces deuxièmes options, justement.
Eh ben justement, ça va te faire une transition. Moi, j'ai l'impression que Klay Thompson est à l'image de Paul George. Sauf que Paul George, on l'a regardé de travers pour ça. C'est qu'il peut très bien te mettre plus de 30 points, mais il peut très bien t'en mettre 15. Et finalement, moi, j'ai l'impression que les deux se valent, du coup, dans cette affaire de deuxième option, et que on attend trop d'un Paul George, mais que si t'en attends autant qu'un Klay Thompson, ça va.
Tom, ça fait à peu près 25 minutes que tu as ton petit doigt levé. Alors, je te laisse reprendre tout ce que tu dois reprendre.
Simplement, pour pas être trop long, hein. Pour Klay Thompson, un peu comme Adrien, moi j'ai valorisé le côté fit à tous les joueurs qui sont au-dessus. J'ai valorisé... Ah, vous avez du bruit de fond. Tout le fit par rapport aux joueurs qui sont au-dessus. Et en fait, Klay Thompson, j'aime bien le qualifier de joueur métamorphe. C'est-à-dire que, en gros... Ah, si tu le mets avec n'importe quel joueur qui sont dessus, tu peux insérer un autre joueur imparfait à côté, sans que ça te coûte quoi que ce soit. Donc du coup, si on prend effectivement ton raisonnement de deuxième option en attaque parce qu'il a pas forcément deuxième 2,5 en attaque parce qu'il a pas forcément le côté playmaking et création individuelle et deuxième option en défense parce que ça peut pas être ton point of attack defender, tu peux pas. C'est un joueur qui va être plus intéressant sur les aides que sur du homme à homme, balle en main, quoi, du balle en main face à face. Donc, du coup, effectivement, si on prend ton raisonnement, Ben, sur ce côté-là, je comprends bien. Après, là où je suis pas d'accord avec Madiane, c'est que pour moi, Paul George est en train d'essayer de mimiquer le jeu de Klay Thompson, alors que ses qualités sont tout autres que ça. Paul George, il doit aller sur la ligne, il doit faire des trucs. Klay Thompson, on n'attend pas ce qu'il aille sur la ligne.
Je trouve que la force, je veux pas défendre du classement de Bade Taylor, c'est que il surréagit pas au fit, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont surévalué à cause du potentiel fit. Et lui, il réagit pas au fit. Et j'ai toujours trouvé, après, c'est un débat qu'on a nous, que le fit est parfois totalement survendu et qu'avoir de la puissance de feu, c'est jamais trop, on peut pas s'en plaindre. Alan, Kyrie Irving, je vais te rappeler de mauvais souvenirs, souvent beaucoup. C'était un des joueurs les plus difficiles à classer de ce classement. Est-ce que t'as un peu ressenti ça?
Ouais, je pense, ouais, parce que Kyrie Irving, c'est un joueur qui a pas joué des trois derniers playoffs. Donc c'est, si les playoffs sont un juge de paix, pour un joueur qui avait tellement bien performé dans des playoffs passés, donc 2016-2017, c'est un petit peu compliqué. Kyrie Irving, je pense que sur le plan statistique, ces deux dernières saisons en saison régulière en tant qu'initiateur offensif, ça est un des tout meilleurs meneurs de NBA. On est sur un joueur qui avoisine les 30% d'usage et qui a quasiment 60% de true shooting, trois fois plus de passifs que de pertes de balles. Bon, c'est de la statistique, je suis d'accord, mais moi, franchement, même si ça s'est mal fini avec du côté de Boston, c'est un des tout meilleurs meneurs de la ligue. Je pense qu'il joue énormément l'année prochaine. Donc en 2020-2021. Je pense qu'il va falloir qu'il gagne des matchs parce qu'il a été super fort offensivement avec les Nets, mais l'impact collectif était pas exceptionnel. Bon, il n'y avait pas Kevin Durant, bien sûr. Mais il est dans une équipe qui quand même pouvait gagner plus de matchs à l'Est. J'avais l'impression que Kyrie Irving, il est sur le terrain. Et surtout, c'est ce que je dis depuis très longtemps avec Kyrie Irving, c'est qu'il pâtit de sa campagne de playoff 2016 et de ses playoffs et de ses finales, parce que on l'a vu tellement fort, on l'a vu être meilleur que Stephen Curry sur la fin de cette série, que maintenant on a des attentes énormes pour lui, on a des attentes de top 10 NBA pour moi, chose où je pense qu'il est peut-être statistiquement, mais qu'il est peut-être pas autre chose. Donc en fait, il y a une sous-performance collective de Kyrie Irving depuis trois saisons qui fait que on dit, ah ouais, mais c'est juste des stats de saison régulière. Alors qu'en fait, pour moi, c'est quand même un très fort joueur de saison régulière et qui a montré qu'il pouvait être un très fort joueur de playoff. Il a tout montré. Playoff, saison régulière, il a juste pas montré les deux en même temps. Et avec la même équipe, avec un peu de continuité. Donc, très difficile à classer. Mais je le mets, voilà, dans cette quatrième partie du top.
Je vais juste poser une question parce que par rapport à Kyrie Irving, pour qu'on conclue cette première partie, on en a parlé. On part du principe que tous les joueurs sont à 100%. On l'a tous dans notre classement. C'est le joueur le plus bas, techniquement, mais on l'a tous dans notre classement. Qui le sort si on prend en compte l'argument blessure? Personne. Tout le monde le garde. C'est intéressant. Moi, personnellement, je le sors, du coup. Enfin, si on prend en compte l'argument blessure, je donne trop d'importance à ça. Kyrie Irving a joué 9 saisons NBA, a raté 10 matchs dans 8. 10 matchs minimum dans 8. Donc, il y a un moment où il faut savoir être sur le terrain et c'est trop important pour moi. Le mot de la fin pour Ilias sur Kyrie Irving. Paul George, on en a déjà beaucoup parlé. Il s'est fait à peu près découper par la moitié de l'équipe. qu'est-ce que tu as à nous dire sur, du coup, Kyrie Irving?
Alors, concernant Kyrie, on avait dit une chose concernant le classement de nos joueurs, c'est qu'on prenait pas en considération le facteur blessure. C'est la raison pour laquelle, on le verra surtout dans la deuxième partie, certains joueurs sont beaucoup plus hauts que par le passé. Mais concernant quand même les différents éléments qu'on peut prendre en considération pour pouvoir évaluer la continuité de ces joueurs, il y a quand même le facteur à se blesser. Et là, par contre, Kyrie Irving commence à très clairement monter dans la hiérarchie, parce que, comme tu le soulignais, c'est un joueur qui va forcément rater des matchs. Et ça, c'est un véritable problème pour moi. Moi, personnellement, Kyrie Irving, c'est très certainement, peut-être, je dirais même dans l'histoire, un des top 3 joueurs que j'aime regarder jouer. C'est-à-dire que si je dois dire à quelqu'un actuellement, voilà, tu connais rien du basket, t'as envie de prendre du plaisir à voir quelqu'un jouer, je vais lui dire, regarde Kyrie Irving. Mais le problème de ce joueur, c'est qu'il a absolument tout en magasin pour pouvoir être au moins au niveau de joueurs comme Damien Lillard, voire Steph Curry, mais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup trop égaré dans tous les à côté, on va dire, de ce qui concerne le terrain. On sait qu'il a quitté Cleveland pour pouvoir assumer un soi-disant statut de leader, et malheureusement, depuis son départ de Cleveland, et on s'aperçoit que même avant l'arrivée de LeBron James à Cleveland, c'est quelqu'un de beaucoup trop clivant sur beaucoup trop d'aspects. Donc, on va dire que va falloir que, très clairement, l'année prochaine, il rectifie le tir, et qu'il soit un petit peu plus focus terrain que sur le fait de d'évaluer ou de juger s'il a besoin, par exemple, d'un coach ou pas.
Eh ben, rendez-vous au DH20. Oui, Tom.
Ouais, t'as posé la question tout à l'heure de qui, même si on prend le facteur blessure, qui enlève Kyrie Irving, t'as vu que personne n'a réagi, peut-être à part toi. C'est parce qu'en fait Kyrie Irving, c'est un joueur qui a une forte variance, c'est-à-dire que quand Kyrie Irving il est à son top, tu vois, et comme Ilias l'a dit, c'est dans les yeux des gars qui sont dans des tiers élite, tu vois, dans les tiers vraiment deux, il enjambe limite deux tiers en fait Kyrie Irving. Quand il est à son
mais est-ce,
au max
est-ce
de ce
que
qu'on l'a vu
dans
faire,
son,
tu vois.
Dans le classement
coup,
qu'on a
joueur de variance.
Dans le classement qu'on a nous, est-ce qu'on le voit pas trop à 80% bon en fait? Si vous voyez
ouais,
ce que je veux dire. Si on
c'est
le voit
si
pas
moi,
déjà.
Je suis d'accord.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas. D'un point de vue un peu composition de classement, ça me pose quelques questions quand j'ai l'impression qu'on lui donne peut-être plus de bénéfices du doute que certains autres joueurs parce qu'on a déjà vu des trucs qu'on n'avait pas vu avec ces mêmes joueurs. C'est ça. Après, c'est un bénéfice du doute qu'on donne collectivement. Donc, il y a peut-être de ça. Mais à voir, parce que c'est quelqu'un qui se maintient toujours. On a fait le premier DH20 après les finales 2016. Depuis, Alan l'a dit, c'est pas la joie, la carrière de Kyrie Irving, et il se maintient. Et moi, ça, c'est un des trucs qui m'a posé question. C'est qu'il se maintient toujours. Enfin, alors que depuis, certains joueurs, on n'est pas revenu sur Paul George, mais ont largement descendu, alors que peut-être, bah, de leur côté, il y a eu des contre-performances. Messieurs, c'est là-dessus qu'on va conclure cette première partie. La deuxième partie, vous inquiétez pas, il y a du très lourd. Il y a du Giannis contre Anthony Davis. Il y a du Embiid. Je vois Madian qui est en train de aiguiser ses couteaux. Je sais pas pour qui. On a du Joel Embiid, du Jokic, on a du Luka, qui est, alors, petit spoiler, devant un MVP. Et pas Russell Westbrook, en l'occurrence, dans certains classements. On va revenir sur tout ça, du coup, la semaine prochaine. N'hésitez pas à réagir sur Twitter. N'hésitez pas surtout à prendre en compte le fait qu'on est 6, donc on n'a pas toujours pu développer tous nos arguments. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitter si vous voulez un peu plus de débat. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Messieurs, vous ne bougez pas. Je vous garde avec moi pour réagir à la suite de ce DH20. On vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut.
Salut.
Tchuss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.